day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut, bienvenue dans Band Geek Mafia. Band Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture.
Tous les mercredis.
Non, un mercredi sur deux.
Eh oui,
et oui,
c'est un mercredi sur deux maintenant.
Semaine paire.
À 19h sur Radio G 101.5. Salut Seb.
Salut Seb, salut Anaïs.
Salut les Seb, salut Pablo.
Et salut Anaïs et les Seb, vous allez bien? Et salut les auditeurs.
Voilà. Oui, salut les auditeurs.
On se retrouve cette semaine pendant une heure pour parler de tout ce qu'on aime, c'est-à-dire de cinéma, de bande dessinée, de livres, de séries télé, de musique évidemment. On salue les auditeurs et les auditrices, tu le disais Pablo, en particulier les fidèles. Hein, Paul, Frédéric et les autres.
Et les autres.
Hein. J'ai une petite dédicace quand même, oui, à notre Etienne-nous national quand même.
Ah oui.
Qui a quitté le monde des bipèdes pour enfin devenir un motorisé.
Il a eu son permis.
Ouais. Oh.
Alors on félicite Etienne, on lui dédicace cette émission. S'il écoute. On va démarrer l'émission avec un petit Noir Désir. C'est pour Paul qui me l'a demandé. C'est vrai que Noir Désir, on en parlait juste avant l'émission. C'est un groupe qu'on écoute moins après toutes les histoires, les faits divers. Et pourtant, c'est toujours aussi bien. Surtout comme elle vient, un morceau en hommage aux Tugs, un groupe angevin. C'était bien.
C'est bon. Ça met la pêche.
Dans Band Geek Mafia, sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Oh là là. Tu peux le refaire parce que tu le fais vraiment bien.
La radio qui fait le point.
Noir Désir, comme elle vient dans Band Geek Mafia, ça fait du bien.
Ouais. Un petit Noir Désir bien serré, hein, quand même.
Alors ce soir, yo, on démarre l'émission, bien sûr, vous avez compris, avec un jingle toujours plein de modestie.
Tout à fait.
Par Boîte Noire, on parlera aussi de Dune et enfin de Shang-Chi. Alors Boîte Noire de Yann Gosselin, c'est un film avec Pierre Niney. On l'aime bien, Pierre Niney.
Ouais.
Alors, c'est un homme qui est à l'écoute. C'est l'histoire d'un homme qui est à l'écoute. Son oui est un don. Il est devant l'écran de son ordinateur, il a le casque sur les oreilles, et donc il s'appelle Mathieu, mais il est joué par Pierre Niney, et il tente de déchiffrer les paroles, les bruits, les chocs qui sont advenus dans le cockpit d'un hélicoptère ou d'un avion de ligne. En fait, c'est un expert, c'est un jeune expert en acoustique qui travaille pour le Bureau d'enquête et d'analyse, un organisme qui est chargé d'enquêter sur la sécurité et les catastrophes aériennes de l'aviation civile. Alors ça, c'est le début. Hein. Il est doué, il est ambitieux, il est consciencieux, mais il est un peu freiné dans ses élans par son supérieur, hein, ça peut arriver. Mais voici, quand l'absence inexpliquée de ce dernier, Mathieu se trouve propulsé enquêteur en chef sur l'accident retentissant dans les Alpes d'un avion qui devait assurer la liaison Dubaï-Paris. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une défaillance technique? Est-ce que c'est une erreur de pilotage? Est-ce que c'est un attentat terroriste? Voilà, le suspense, hein, tout de suite on est happé par le suspense et un film réaliste, impressionnant. L'aide de la précision pour décrire les procédures techniques, les méthodes d'analyse, ça rappelle des films qu'on connaît, des films catastrophes qu'on a vus, qui ont été assez marquants dans l'histoire du cinéma. Mais là, c'est basé aussi sur l'importance du son.
J'ai une question justement par rapport à ces fameuses boîtes noires. Je me suis jamais demandé ce qu'elles contenaient. En fait, c'est que de...
Tous les enregistrements.
Ouais, c'est que de l'audio, finalement.
C'est de l'audio,
ouais. Ouais, c'est...
Et en plus, elles ne sont pas noires, elles sont oranges. Pour qu'on puisse les retrouver en cas de crash.
Ce serait intéressant de savoir pourquoi boîte noire, du coup.
Ah, allez voir le film.
Voilà.
Alors, la fameuse boîte noire, donc, suspense, qui est orange, en fait, hein, l'ouverture de cette boîte, c'est une opération risquée. C'est comme un déminage, c'est comme de la chirurgie.
Hein, il ne faut pas perdre les données et les informations.
Exactement, il y a un protocole très strict. Et donc, il y a beaucoup d'intervenants. Et Mathieu, donc le personnage, grâce à la carte mémoire qui est extraite de cette boîte noire, il tente de reconstituer l'enchaînement des événements ayant mené à la tragédie. Mais il y a des anomalies, il y a quelque chose qui le tracasse. Voilà. Donc, il mène l'enquête. Et puis, donc, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout dévoiler. Donc, le scénario, il est documenté, il est élaboré. Yann Gosselin, il a déjà tourné des films, il a tourné Un homme idéal et Burnout aussi. Et il déroule une intrigue haletante aux ressorts multiples. C'est très, très bien fait. La force du film, eh bien, ça réside dans le thriller d'investigation, hein, voilà, qu'on a déjà vu. Mais on s'identifie pas mal au personnage principal. Jusqu'au moment où le doute s'installe, parce qu'il est obsessionnel aussi, le personnage principal, il s'avère un peu fragile. Est-ce qu'il n'est pas un peu dingue, vous voyez ? Est-ce qu'il n'est pas un peu parti dans le délire, dans le complotisme et tout ça, dans la paranoïa ? Exactement.
Wow.
Alors, l'épouse de Mathieu, elle est jouée par Lou Delage. C'est une femme brillante. Elle semble plus solide que lui, en fait. Et puis, elle travaille dans le même secteur, mais dans une autre branche, avec un possible conflit d'intérêts aussi. Donc, boîte noire, ça suggère l'idée inquiétante que l'obtention de la vérité ne se fait pas sans destruction ou autodestruction. Alors ça, on parlera philosophie avec Pablo plus tard, hein, sur la vérité, justement, c'est intéressant.
Ouais, mais la vérité est ailleurs.
Donc voilà, le film, il a le mérite de brosser un tableau à la fois passionnant et légèrement anxiogène, hein, des mutations de l'aéronautique actuelle avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et l'automatisation des vols et les menaces de piratage informatique. Voilà. Alors par contre, c'est pas sûr qu'on prenne l'avion plus sereinement la prochaine fois.
D'accord. En tout cas, il brasse pas mal de thèmes. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, que cache réellement l'accident d'un vol Paris-Dubaï ou Dubaï-Paris? Voilà, c'est Boîte noire de Yann Gosselin, ça dure 2h09 avec Pierre Ninet, Lou Delage, André Dussolier. Et c'est un film qu'on vous conseille, voilà. Oh, Pablo,
merci.
Tu vas nous parler de Dune.
Est-ce que...
Un temps fort, je crois.
Alors, un temps fort, on passe une petite bande-annonce, peut-être?
Ah bah, oui, avec grand plaisir. Alors, il suffit, regarde juste que j'aille la chercher.
Une petite question. Alors, est-ce qu'on prononce Dune ou Dune? Parce que là, pendant un peu de temps, ils n'arrêtaient pas.
Si t'es français ou américain.
Ouais, ou si t'es un peu crétin.
Mais bon. Ouais, moi, je prononce Dune. Hein,
oui, moi aussi.
Voilà, très bien.
On est bien d'accord.
Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Paul. Une croisade se prépare.
Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues ?
Oui.
L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
La souffrance.
Ça y est, c'est parti.
Tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit...
En fait, alors voilà, Dune de Denis Villeneuve, sorti dans les salles mercredi dernier, mercredi 15 septembre. Le film Dune tient ses promesses d'une adaptation à l'écran fidèle d'un roman de science-fiction de Frank Herbert, publié en 1965 exactement, et d'une interprétation personnelle de l'œuvre par le réalisateur. Personnellement, je suis assez fan, j'étais déjà fan à 15 ans du roman et je pense que je le suis resté. Nous sommes plusieurs à considérer d'ailleurs que ce roman est comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, voire de la littérature en général. Bon, à discuter. En tout cas, au-delà des deux tomes qui constituent Dune, s'ensuit donc une saga, une des grandes sources d'inspiration de la saga Star Wars et plus tard aussi de George Lucas, bien sûr. Vous pourrez d'ailleurs vous amuser à trouver les similitudes des deux œuvres, ou encore de Game of Thrones de George Martin, par exemple, dans l'influence politique des grandes maisons aristocratiques ou le thème du poids de l'héritage paternel pour un fils, ou pour une fille d'ailleurs. Je rappelle aussi que le projet d'adaptation du roman à l'écran était considéré comme trop compliqué, voire maudit. D'accord ? Alejandro Jodorowsky, en 1975, s'essaye au projet avec une véritable dream team. Il a Moebius comme co-scénariste, il a Pink Floyd et Magma à la musique, mais il va être lâché par ses producteurs et ce sera donc du coup, il devra y renoncer. Ridley Scott aussi a un moment la tentation de reprendre le projet avant de se lancer dans Blade Runner. Puis enfin, on a le grand David Lynch, d'accord, qui en 1984 s'essaye à cette adaptation. Une adaptation qui va rester mitigée dans l'histoire du cinéma. Tout David Lynch qu'il est, c'est vrai que personnellement, j'aime le film, j'aime quand même bien cette adaptation. Je crois que Seb toi aussi,
les deux. Elle est pas mal, mais c'est vrai que ce qui fait la difficulté dans cette adaptation, c'est il faut bien comprendre que dans les dialogues que l'on a, qui sont vraiment très très longs dans cette adaptation-là, en réalité, on a la pensée profonde du personnage qui s'exprime en même temps et qui décrit la scène et qui rajoute finalement des longueurs.
Et c'est pas évident. Ce va-et-vient entre la voix off, la voix intérieure et l'extériorité du dialogue, clairement.
C'est un film quand même du très ancien, quoi, début des années 80, donc c'est pas les mêmes effets spéciaux ni le même rythme.
Exactement. Alors sur les effets spéciaux, c'est sûr. Pourtant, à la même période, on a quand même déjà le premier épisode de Star Wars qui est sorti.
Oui, c'est vrai. Mais Lynch, il a beaucoup souffert tournage.
Sur les effets spéciaux, là, c'est vrai que parfois il y a des bonnes idées, mais alors la réalisation, il faut absolument, regarder quand même, mais ça pique un peu les yeux.
Pablo, ce nouveau Dune.
Bon, je pour les auditeurs, je reviens un petit peu quand même sur le synopsis. Donc, dans un futur lointain de l'humanité, l'histoire débute en 10191 de notre ère. D'accord. Le duc Leto Atreides reçoit de l'empereur le fief de la très profitable et très dangereuse planète désertique Arrakis. Également connue sous le nom de Dune, cette planète est la seule source de la substance la plus précieuse de l'Imperium, l'épice. Une drogue qui prolonge la vie humaine, immunise contre les poisons et procure des facultés mentales surhumaines. L'épice rend en outre notamment possible la navigation interstellaire, base de toute l'économie impériale. Bien que Leto sache, le duc Leto sache que cette opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène avec lui sa concubine Bene Gesserit, on reparlera de ça, la dame Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et ses soldats les plus fidèles sur Arrakis. Leto prend le contrôle de l'extraction de l'épice, rendue périlleuse par la présence de vers des sables géants, les fameux Shai-Ulud, qui attaquent toute source de vibration. Les Atreides devront aussi composer avec les Fremen, le peuple autochtone d'Arrakis, qui vit dans le désert profond de la planète. Les Fremen sont dans l'attente du Mahdi, le Messie, qui suscitera le soulèvement et les libérera de l'oppression de l'Imperium. Voilà pour le synopsis. Donc Denis Villeneuve réalise selon moi, un coup de maître. Il propose un film d'action riche en effets spéciaux, actuel, où les combats sont stylés, notamment grâce au bouclier d'énergie, vous verrez ça, qu'il faut parvenir à percer. Les batailles sont impressionnantes, des batailles au laser, vraiment, pour les gens qui connaissent les épisodes Star Wars, vous retrouverez largement des choses. Mais il interprète aussi le roman d'une façon shakespearienne. L'histoire est une tragédie. Le thème de la trahison est présent, le thème du devoir et de l'honneur, mais encore le thème de la difficile et lourde filiation, de l'héritage paternel plus difficile à porter pour le jeune Paul qui a 15 ans, plus difficile à porter que celui de sa mère, Ce thème de la filiation difficile est très présent chez Denis Villeneuve. Hein. On le trouvait déjà dans Incendie que dans Premier Contact, si vous connaissez le film.
J'ai adoré
Les deux. Ils sont magnifiques. Mmh. Hein. Voilà, il y a vraiment ce thème qui revient et on sent que bon, voilà, c'est quelque chose qui a fait vraiment résonance en lui, côté shakespearien, et qu'on retrouve parfaitement dans l'œuvre de Dune. Paul est tout jeune, il est né, il est expérimenté, pourtant il est valeureux. Il a été entraîné par les meilleurs maîtres d'armes de sa maison et initié aux arts Bene Gesserit par sa mère Jessica. Les Bene Gesserit sont un ordre féminin, un ordre matriarcal mystique qui maîtrise les arts martiaux et qui maîtrise la voix avec un grand V. Une façon d'infléchir sa voix afin de se faire obéir de façon automatique, qui pratique aussi la divination. On l'a vu dans l'extrait hein, qu'on vient de passer, il est question de divination. Il n'est pas intéressé par le pouvoir politique, mais si c'est le pouvoir qui l'appelle, saura-t-il y faire face ? Une petite critique néanmoins. Il y a une sorte de manichéisme apparent auquel il ne faut pas forcément se laisser prendre. En effet, en apparence, on a d'un côté les Atréides, les bons, de l'autre côté les Harkonnen, les méchants. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, et la suite de la saga le démontre. Les jeux de pouvoir et de stratégie politique sont en cours. L'empereur est ambigu, les Bene Gesserit le sont tout autant. Les Fremen ne sont ni bons ni mauvais, mais rudes et peu enclins à la pitié. Les personnages sont profonds et intéressants, mais pas extrêmement attachants. Ils gardent un côté froid dans le jeu. En même temps, c'est ce qui correspond à leur noblesse et à leur étiquette, hein, l'étiquette noble ou à la personnalité de Paul. Le plus attachant, je dirais, dans les personnages reste le maître d'armes Duncan Idaho. Enfin, j'insisterai sur la dimension contemplative et écologique du film. Denis Villeneuve a voulu filmer en décor naturel. Il a filmé le désert directement, donc à Abu Dhabi et il me semble en Jordanie. En lumière naturelle, les images sont absolument magnifiques. L'impression est puissante. Je pourrais encore parler des effets techniques. Hein. C'est-à-dire qu'il a filmé d'abord en numérique, il est repassé en analogique avant de retravailler. Il y a tout un effet pour avoir un désert assez aride, assez froid, difficile. D'accord ? Bon, après, je dirais que l'impression est puissante. Elle est renforcée par la musique de Hans Zimmer, toujours fidèle au poste, qui fait un petit rappel de Gladiator. On a pu entendre là tout à l'heure la voix de cette femme. Voilà, on retrouve les thématiques propres à Hans Zimmer. Le désert est omniprésent sur Dune. Je dirais presque que c'est la planète des sables. Hein. Le désert est le personnage principal du film. Il change de couleur selon la lumière du soleil. Il ondoie et se transforme sous l'effet du vent ou des redoutables vers des sables géants, Shai'ulud. Il impose sa puissance, sa violence élémentaire, son rythme de vie ou de déplacement. Les Fremen se déplacent la nuit selon une marche qui imite l'irrégularité du vent et du sable afin de ne pas attirer un vers des sables. Cette marche chorégraphique sera plus présente a priori dans le second volet. Le désert nous remet à notre place. Son immensité nous écrase, sa violencité peut nous tuer. Son expérience est fortement et forcément extrême. Le désert nous oblige à sortir de nous-mêmes, à explorer nos zones du dehors, comme dirait Alain Damasio, à sortir de notre zone de confort égotiste, sortir de nos égocentres pour accepter la nature dans sa totalité, nous rendre humbles et respectueux face au vivant. Le désert appelle la contemplation, appelle la contemplation et la méditation. Donc, le désert, effectivement, c'est une expérience qui nous durcit. On le verra avec Paul, on le verra avec les Fremen, d'accord ? Les Fremen qui sont parfaitement adaptés à cette nature environnante. Je termine par dire que s'ils sont rigueux et intraitables, avec Paul Atréide, ou plutôt l'acteur Timothée Chalamet, plante un héros à la fois fragile et froid, une sorte de petit prince de Saint-Exupéry, endurci, quand il arrive, mais qui va vite apprendre, au contact de Dune. C'est donc un récit initiatique. Les images et les visions de ses rêves sont assez fascinantes. Bref, Denis Villeneuve s'est dit prêt à réaliser le second volet. En attendant, allez voir Dune, lisez ou relisez les romans pour vous imprégner de cette mythologie moderne. Voilà, merci de votre écoute.
Merci Pablo.
Merci Pablo.
Merci Pablo.
Moi, quand tu en parles, ça me fait penser aussi à l'adaptation de Denis Villeneuve de Blade Runner. Blade Runner 2049.
Absolument. Avec ses ambiances de neige.
Ouais. De désert aussi.
De désert aussi, ouais. Il est fasciné par le désert. Effectivement, là, il lui rend un véritable hommage. Après, on peut en discuter. Vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est vrai que ceux qui ont... Voilà, qui je dirais les néophytes pourront peut-être avoir des difficultés à rentrer dans le monde. Ceux qui connaissent peut-être trouveront un aspect peut-être parfois trop didactique. Bon, c'est à voir.
Ok. Troisième film ce soir, Shang-Chi, Anaïs, et la légende des 10 anneaux,
oui,
de Destin Daniel Cretton.
Oui.
Alors ça n'a rien à voir, parce que là, ça n'a rien à voir, parce que c'est un nouveau héros. Le premier asiatique chez Marvel.
Hein.
C'est une aventure qui nous permet de faire connaissance donc avec Shang-Chi, qui est moi que je ne connaissais pas vraiment hein, comme personnage de Marvel, et à découvrir comment donc un simple voiturier de San Francisco va hériter de pouvoirs dignes d'être recyclés dans d'autres films, à mon avis.
Oui.
Alors l'expérience... L'expérience, elle tient un petit peu du grand écart parce que je pense qu'on peut s'ennuyer dans ce film parce que bon, le scénario il est assez classique. Il y a des effets d'images de synthèse, mais en même temps on peut apprécier de jolies idées. Tu nous en parleras peut-être, comme cette forêt enchantée, ouais, de bambous mobiles, une pincée d'humour aussi,
oui, tout à fait,
avec l'acolyte du héros, et puis des combats d'arts martiaux qui changent de l'ordinaire super-héroïque. Voilà, et sans oublier la présence de Tony Leung qui jouait dans In the Mood for Love,
yo,
quand même. Donc, Shang-Chi, Anaïs, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu. Alors, moi, j'y allais sans grande conviction, voilà, pour découvrir un nouveau personnage de l'univers Marvel, voir peut-être s'il y avait des liens qui allaient se tisser avec la suite, parce qu'on va vers un nouveau multivers, peut-être.
C'est
voilà. Et en fait, non, c'est quelque chose qui semble assez à part, même si on a un petit lien quand même, mais je ne peux pas voilà, tout vous dévoiler.
Non, ne dévoile pas.
Mais moi, j'ai apprécié l'univers graphique, justement. Ce voyage là dans cette forêt et ce lieu un peu particulier, assez poétique. Il y a des beaux combats, pourtant c'est pas du tout mon truc, moi, les arts martiaux de base, et en fait je me suis pas du tout ennuyée. Mm-hmm. Certes, le scénario est assez classique, mais on passe un bon moment, les personnages sont attachants, il y a un brin d'humour en effet. Le héros est accompagné d'une amie qui est voilà, l'audio fonctionne très
Katie.
Bien ouais,
Katie.
Ça marche bien. Et puis voilà, un bon moment,
Katie,
un divertissant. Ouais.
Excuse-moi, Katie, ça me fait penser à Kato. Enfin, c'est l'acolyte d'un autre personnage, d'un autre super-héros, mais ça n'a rien à voir.
Et est-ce qu'il y a Deadpool?
À chaque fois, tu veux qu'il y ait Deadpool.
Oui, moi, je veux qu'il y ait
Deadpool.
Il
n'y avait pas Deadpool dans Black Widow.
Non, mais ça, c'est
énorme, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je te réponde? Je te réponds
oui
pas.
Ou non, tu dis oui ou non?
Non.
Il y a
un lien qui semble se tisser avec un autre personnage de l'univers Marvel. On se doute très très fortement qu'il y aura un deuxième Shang-Chi. Hein.
Okay.
Là, c'est évident,
ouais,
puisque la fin ouvre.
Rien à voir avec du coup avec la saga des Defenders, c'est le Iron Fist qui était déjà en Asie mais qui n'était pas un asiatique du coup. Hein,
je ne crois pas.
Non.
Ok. Okay.
Par contre, je pense que le prochain Marvel qui a pris à sortir, qui est a priori le Spider-Man, hein, lui ouvrira un petit peu plus le champ vers
d'autres.
Voilà.
Vers d'autres univers.
Merci beaucoup. Donc on vous récapitule nos films, hein, nos coups de cœur de ce soir. Boîte Noire, Dune et Shang-Chi.
La légende des anneaux.
Alors, une découverte musicale pour la suite. Alors là, je peux vous dire que c'est un truc qui m'est tombé dessus comme ça, par hasard, et qui reste dans la tête.
Oula, je sais pas si
vous écoutez. Je crains le pire.
C'est des Anglaises qui chantent, deux Anglaises qui chantent, bon ok.
D'accord.
Et le refrain est en français. Le refrain, c'est « chaise longue ». En une chaise longue, en une chaise longue,
ah,
all day long, en une chaise longue. Eh bien, c'est tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Someone to butter your muffin. Excuse me.
What?
Excuse me.
C'est Wet Leg avec Chaise Longue dans Mon Geek Mafia. Ça vous a plu?
Ouais.
Ouais, excellent. J'ai beaucoup aimé cette pop.
Moi j'aime bien.
Moi j'aime bien cette pop anglaise féminine, ça change et tout, ouais. Ça a la pêche.
Et nous continuons notre voyage cérébral.
À toi Seb.
Eh oui, on est parti sur un voyage cérébral. Eh bien encore une fois, on part sur une bande dessinée qui est une adaptation d'un livre qui est quand même connu, Un roi sans divertissement de Jean Giono. Jean Dufaux et Jacques Terpan aux éditions Futuropolis se lancent dans cette adaptation. Alors 1843, le capitaine de gendarmerie Langlois arrive dans un petit village isolé de Trièves dans le massif du Vercors. Un tueur mystérieux y sévit et plusieurs personnes ont disparu. Langlois va mener l'enquête pour finalement trouver le coupable et l'abattre. Un an plus tard, Langlois revient, cette fois-ci comme commandant de Louvry, et organise une chasse au loup qui rappelle sa précédente traque. Voilà, on en reste là. Puis il y a un troisième passage, un troisième temps où il arrive et il revient. Et là, c'est...
C'est le drame.
Le drame, c'est le cas de dire.
Moi, j'ai lu le roman, Un roi sans divertissement, il y a longtemps. C'est un super bouquin.
C'est un super bouquin, moi, ce que j'adore dans ce livre et que je retrouve. Ce que je retrouve aussi dans cette bande dessinée, c'est cette présence de la nature, ces descriptions de Giono, de la nature qui sont magnifiques. C'est un livre qui est vraiment magnifique. Donc, Un roi sans divertissement a été écrit en 27 jours et, selon Pierre Michon, un des sommets de la littérature universelle. Donc, Jean Dufaux et Jacques Terpan en livrent une adaptation libre qui magnifie les paysages flamboyants du Trièves, cher à Jean Giono, justement. Donc là, voilà, on retrouve tout l'esprit, finalement, qui est propre
en BD. Alors c'est réussi.
C'est réussi. Moi je franchement,
ouais, le graphisme est bien.
Il est magnifique, les couleurs sont magnifiques et je montrerai donc simplement pas à nos auditeurs puisqu'ils ne peuvent pas voir, mais ne serait-ce qu'à
ils
vous.
Ils iront voir.
C'est
un très bel arbre.
Oui, bah, ce très bel arbre qui est au cœur justement du
de l'intrigue.
De l'intrigue.
Tout à fait.
Donc voilà, et là je trouve que ce rendu, il est vraiment, il est vraiment magnifique.
Donc pour les auditeurs, on voit un très grand arbre avec, je sais pas, c'est un coucher de soleil peut-être derrière.
Un coucher de soleil, un soleil justement flamboyant, orange, jaunâtre, un petit peu comme dans un désert finalement. Ouais.
Donc là on est dans la forêt.
Et on retourne dans la nature, ouais, dans la nature sauvage là, dans du Vercors en fait, hein, c'est ça. Ouais.
La nature sauvage et la nature complice aussi en même temps. Et ça c'est important. Donc voilà.
Toujours pas de BD historique. Hein,
toujours pas de BD historique.
Ça fait deux émissions sur cette édition.
Que t'arrive-t-il?
Non mais vous inquiétez pas, je me rattrape après.
J'ai pensé à toi, j'ai pris un roman historique.
Oh là.
Tu vois.
C'est bien. Voilà. Alors là, deuxième bande dessinée, mais alors là, on est carrément aux antipodes.
C'est ça, Band Geek Mafia, c'est l'éclectisme.
C'est l'éclectisme.
On le rappelle.
Quaco nous propose justement une bande dessinée. Alors je pensais pas un jour acheter ça, mais franchement, c'était pas mal. Les Baudins se font la belle.
Waouh.
Alors déjà, là, quand on lit ça, c'est pas mal. Donc Maria et Christian Baudin ont décidé de partir en vacances. Ils quittent leur chère ferme de Touraine une semaine pour se mettre les doigts de pied en éventail dans un camping à La Baule. Ils comptent bien profiter de toutes les joyeusetés de la région, entre bons petits restos, les parties de pêche et une sortie au casino. Christian aura-t-il l'occasion d'amadouer une jolie sirène bauloise sous l'œil surprotecteur de sa mère? Pour le savoir, retrouvez nos fameux Baudins dans cette nouvelle aventure inédite à déguster sans modération. Et moi j'avoue que là franchement, je me suis marré.
Mais je crois qu'il va y avoir une adaptation cinématographique.
Ah bah ça cartonne,
c'est hyper réaliste comme pitch là, c'est clair que
ça fait penser au Bidochon un peu quoi.
Ouais, c'est les Bidochons, mais c'est total. On retrouve finalement cet univers des Baudins et là c'est pas ce que l'on connaît quoi finalement, c'est un autre deux autres histoires des autres aventures et franchement c'est voilà quoi, c'est on se tord.
Il y avait d'autres tomes des Baudins en BD et d'autres ou c'est le premier?
C'est le premier. Bon, je pense que là, ils ont fait un essai pour voir si ça fonctionnait. D'ailleurs, à l'intérieur, vous avez donc une petite présentation aussi par les deux acteurs qui jouent les Baudins. Même eux reconnaissent que cette bande dessinée est plutôt quand même. Bon, ils vont pas dire qu'elle est pas réussite, hein, ça c'est clair. Mais même eux, ils disent que voilà quoi, l'état d'esprit des Baudins, quand même, qui est pas très 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 évolué, mais est quand même bien présent. Et franchement, voilà quoi, les personnages, on les voit tout à fait, on imagine même les voix quoi. Carrément, donc là, autant dire que là, c'est une bonne réussite. Donc, aux éditions Jungle, Quaco, les Baudins se font la belle et effectivement, on se marre quand même de la première page jusqu'à la dernière page.
C'est cool, hein,
merci.
C'est cool.
Cool.
Voilà. Merci beaucoup.
Donc, Un roi sans divertissement.
Un roi sans divertissement de Jean Dufaux et Jacques Terpan d'après Jean Giono aux éditions Futuropolis. Et puis donc Quaco, les Baudins se font la belle aux éditions Jungle.
Merci Seb.
Merci.
Alors tout de suite un petit morceau de musique demandé par Fred. Alors on lui fait plaisir, on écoute Aiden Thorpe avec Parallel Kingdom dans Band Geek Mafia.
C'est bien sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Telling ocean from air, so I'm every.
Voilà, c'était Hayden Sorp avec Parallel New Karen Kingdom. Non, 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 pas du tout. Et effectivement, c'est très sympa. Merci Fred.
Ouais,
tout de suite, la suite. Anaïs va nous parler d'un magnifique livre. Après son jingle, bien sûr.
Et t'as eu Anaïs? Tu sais si elle vient?
M'étonnerait.
Je sais pas s'il faut insister comme ça pour la sortir, pour changer les idées. Parce que la fois qu'on l'a traînée, dès qu'elle est arrivée, elle a bu trois shots direct. Elle s'est cassée la gueule du tabouret. Elle a vomi.
Mm-hmm. 21h.
À 21h.
Ah ouais, non, mais...
On la reconnaît bien là.
Ça ne m'arrive plus. Alors moi ce soir j'avais envie de vous parler d'un roman qui n'est pas du tout une nouveauté, qui est sorti il y a quelques années, je crois que 2017, d'une journaliste et romancière qui s'appelle Alice Skinner, qui malheureusement est décédée depuis. Et en fait c'est un roman historique sur... le béguinage, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous.
Je connais la chanson.
C'est des religieuses.
C'est,
des,
ouais.
C'est pas la béguine.
Alors c'est...
c'est les béguines, c'est des religieuses.
Les béguines, ouais. Donc, donc Alice Skinner a publié donc, chez Liana Levy La nuit des béguines. Donc on est à Paris, dans le quartier du Marais, en 1310. Au grand béguinage royal, elles sont des centaines de femmes à vivre, étudier ou travailler comme bon leur semble. Refusant le mariage comme le cloître, libérées de l'autorité des hommes, les béguines forment une communauté inclassable, mi-religieuse, mi-laïque. On y retrouve donc dans cette communauté à cette époque la vieille Isabelle qui connaît tous les secrets des plantes et des âmes et qui veille sur les lieux. Et puis, ce béguinage royal va être un petit peu troublé par l'arrivée d'une jeune inconnue, qui va finalement troubler leur quiétude. Mm-hmm. Maheu Larousse, mutique à ses rebelles, fuit des noces imposées et la traque inquiétante d'un franciscain. Alors que le spectre de l'hérésie hante le royaume, qu'on s'acharne contre les Templiers et qu'en place de grève on brûle l'une des leurs pour un manuscrit interdit, les béguines de Paris vont devoir se battre pour protéger Maheu, mais aussi leur indépendance et leur liberté. Tressant les temps forts du règne de Philippe le Bel et les destins de personnages réels comme Marguerite Porrette ou fictifs, Alice Skinner nous entraîne dans un Moyen-Âge méconnu. Ces héroïnes solidaires, subversives et féministes, avant l'heure, animent une fresque palpitante, résolument moderne. Donc voilà, pour évoquer ce moment passionnant de l'histoire des femmes, par les femmes, donc l'écrivaine et journaliste Alice Skinner avait donc choisi la fiction, tant les sources manquaient. On a une historienne américaine qui avait publié quelque chose en 2014, et puis quelques articles de ci, de là, mais il n'y avait pas beaucoup de sources directes. Donc le roman s'imposait pour faire découvrir cette histoire. Donc on est entraîné dans un récit à rebondissements, tissé principalement par quatre femmes, de toutes conditions et de générations différentes. Leur point commun, leur rencontre pour le meilleur, mais aussi pour le pire, entre les murs de ce grand béguinage de Paris.
Donc voilà. On découvre un univers qu'on connaît peu en fait.
Ouais,
on connaît
pas du tout. Une grande ignorance là-dessus.
Moi aussi.
C'est pareil.
Incroyable.
Donc en fait, ces béguines, elles vécurent entre
femmes,
le 12e et le 15e siècle. Mmh. Elles étaient particulièrement présentes entre Paris et Cologne. En Belgique, certaines communautés traversèrent le chaos du temps. L'encyclopédie, je cite Wikipédia, signale la mort de la dernière d'entre elles le 14 avril 2013 à Coutray.
Pour ça, c'est en Belgique. Ouais.
Voilà, à vérifier. Mais voilà. Nombre d'entre elles étaient veuves et ont rejoint le béguinage pour échapper aussi parfois à des tentatives de mariage imposées par les familles.
Ouais.
Elles mettaient en avant leur foi, mais n'étaient pas recluses comme les religieuses.
D'accord.
Dedans et dehors, en quelque sorte, elles vivaient une communauté entre des murs, dans des petites maisons individuelles, entourées de jardins médiévaux, dont on pouvait sortir comme elles le voulaient pour vaquer à leurs activités, parfois professionnelles, il y en a certaines qui travaillaient, sanitaires ou charitables. En France, on dira peut-être, pour les rabaisser un peu, qu'elles étaient issues de l'aristocratie et qu'elles devaient leur puissance une fois encore à un homme, le roi Louis IX, passé à la postérité sous le surnom de Saint-Louis.
D'accord.
Donc sa mort sonna aussi le glas de ce statut un peu spécial. Pas immédiatement, mais le clergé catholique réussit finalement à y mettre le bon ordre.
Ouais, mais c'est intéressant de voir qu'au Moyen-Âge, il s'est passé il y a eu des moments comme ça de liberté qu'on mesure pas tout.
Oui,
souvent,
parce qu'on a une image un peu caricaturale du Moyen-Âge, d'une époque sombre et tout, alors que pas forcément. Enfin, ouais. Là, elles sont cloîtrées.
Non, pas du tout. Bégin. Ouais. Pas du tout.
Bah, le Moyen-Âge est vraiment perçu comme un petit truc sombre. Ouais. Voilà.
Un petit ajout.
Je voulais juste vous parler aussi d'un petit roman jeunesse que j'ai lu qui aborde l'éloquence. Ce livre, c'est Demandez-leur la lune de Isabelle Pandazopoulos. Et en fait, c'est un roman que je conseille à tous les jeunes puisque ça aborde en fait au travers le destin de quatre personnages. Qui rentre en seconde par la voie professionnelle, ça aussi c'est intéressant, que finalement les échecs, ils sont tous en situation d'échec et ils vont retrouver confiance en eux grâce à une jeune prof qui va travailler avec eux, l'éloquence. Donc je vous conseille aussi ce roman polyphonique d'Isabelle Pandazopoulos.
Merci Anaïs.
Ah ouais, merci.
Quel est le titre de cette chanson? C'est un blind test.
Pour une bébé.
Pour une bébé avec toi. Oui. Alors tout de suite la suite.
Ça va être dur.
Duran Duran.
Voilà.
Oui, parce que Duran Duran existe encore. Duran Duran n'est pas mort. C'est un groupe des années 80.
Ouais. Mon Dieu.
Qui a eu un gros succès. Hein. Un groupe anglais bien sûr. Ouais. Gros succès dans les années 80. Ouais. Ils ont fait des musiques pour James Bond. Enfin, ils étaient très célèbres et ils continuent à faire de la musique. Alors on écoute leur dernier titre, Invisible, dans Band Geek Mafia.
Sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point. Il a tout dit.
Il le dit bien. oui, Duran Duran est toujours vivant.
Ah, ils ont sorti le vieux synthé, là, c'est bon.
Invisible dans Mon Big Mafia. Alors, tout de suite, Pablo va nous parler d'une série télé. Une série bien sympathique, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, bon, écoutez, en fait, là, c'est, je vais vous parler...
Tu veux pas de jingle?
Tu nous mets un petit jingle?
Bah, je sais pas, tu me dis,
allez,
dis-moi.
Bah, un petit jingle.
Tu veux Bella Ciao?
Un jingle, un jingle, allez, un jingle.
Bella Ciao.
Parce que forcément, dans Casa des Papel...
Mi son alzato, Bella Ciao, Bella Ciao. Mattina, mi son alzato...
Allez Pablo,
allez, on est rapide hein, quand même. Donc effectivement là je vais vous parler de la Casa des Papel, donc la saison 5 et du coup partie non parlera oui la saison 5 mais partie 1, c'est-à-dire 5 premiers épisodes qui viennent de sortir du coup sur la plateforme Netflix. La Casa des Papel de d'Alex Pina. 2017-2021. Les plus célèbres braqueurs espagnols reviennent sur Netflix après une saison 4 en dessous des précédentes, il faut bien le reconnaître. Les premiers épisodes de la saison 5 remontent le niveau, mais on a tout de même la sensation que la sauce se rallonge. Hein. Il est temps de conclure, les amis. Mis à part ce bémol, l'action est toujours au rendez-vous. Le braquage s'est même transformé en guerre ouverte. Le mélodrame est toujours là, avec même quelques accents à la Almodovar, entre mélodrame et humour absurde. Et surtout, les flashbacks, qui selon moi, font tout l'intérêt de la série, et qui continuent de creuser les personnages, et de nous les rendre encore plus attachants. Le gang, alors je vous parle du synopsis hein, rapidement, le gang est enfermé dans la Banque d'Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne. Mais ils s'apprêtent à vivre leurs heures, les plus sombres, 1, 2, 3, après avoir perdu l'un des leurs. Le professeur a été capturé par la terrible et tortionnaire Alicia Sierra et pour la première fois, il ne sait pas comment s'évader. Oui, parce qu'en général, le professeur, il a toujours un plan pour tout. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit bien plus puissant que tous ceux qu'ils ont affrontés jusque-là, l'armée. La fin du plus grand casse de l'histoire se rapproche et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte. Donc...
Et l'ejército.
Et voilà, l'ejército.
Ouais, un carnage, quoi, en clair.
Un carnage. Donc là, voilà, il y a... Alors, je dirais que... On va voir, hein. La faiblesse de cette saison, dans les 5 premiers épisodes du moins, et son scénario, on a dû déjà vu, on a dû répétitif. En revanche, sa force, c'est son procédé narratif. Notamment, comme je le disais, ces fameux flashbacks qui nous révèlent petit à petit le passé et la personnalité des personnages, mais aussi les fameux plans du professeur. Ici, on introduit un nouveau personnage très intéressant qui aura certainement son rôle à jouer lors du grand final. Les fans d'action et de combat guerrier apprécieront le déploiement militaire qui fait irruption et met en valeur l'héroïsme des personnages. Cependant, un événement surprenant va advenir, qui n'est pas sans rappeler un mélange almodovarien entre mélodrame et humour absurde. Cet événement va remélanger les cartes, hein, mais je n'en dis pas plus pour pas spoiler. Bon, j'avoue avoir une certaine faiblesse pour cette bande de braqueurs espagnols qui s'attaquent au cœur du véritable pouvoir actuel, hein, la finance et l'argent. Ils avaient commencé par braquer la fabrique nationale de la monnaie. Maintenant, ils refondent l'or de la Banque d'Espagne. Tout cela sur fond historique, hein, de la crise des subprimes de 2008 qui a frappé durement l'Espagne, ou de cet or pillé au peuple amérindien durant des siècles par la couronne espagnole. Le spectateur est souvent placé en position de juge. Certes, leurs actes sont illégaux, mais sont-ils pour autant illégitimes? Où se trouve la frontière entre la légalité d'une situation de contrôle qu'exercent les banques sur nos vies et la légitimité d'un acte violent dont la portée est symbolique et collective? Qu'est-ce que la justice selon vous? Est-elle dans le strict respect de la loi générale ou est-elle dans le droit des individus à disposer de leur propre vie? Donc, je vous laisse avec ces questions, les amis. La Casa des Papel, saison 5, partie 1 sur Netflix. Donc, merci de votre écoute.
Merci, Pablo.
Merci. Wow. Vous êtes bien sur Radio G.
C'est magnifique.
Et dans Bande Geek Mafia.
Alors moi, c'est vrai que la Casa des Papels, j'ai vu la première saison, peut-être la deuxième, puis après j'ai abandonné. Ouais. Je sais pas vous, les amis.
J'ai jamais regardé.
Ça me semblait complètement invraisemblable.
Ah oui, c'est clair, c'est invraisemblable.
Mais c'est pour ça que c'est rigolo.
Ouais, voilà. Et en même temps, c'est osé. C'est voilà, il y a quand même, je vous disais, cette thématique actuelle. Après, voilà. Il y a des faiblesses et en même temps il y a un vrai travail sur les personnages. Je trouve que c'est la force de la série, quoi.
Il y aura sûrement une saison 6.
Je pense pas.
Je pense que c'est la fin.
Là on arrive sur la fin, donc deuxième partie finale. Ouais, je pense.
De toute façon, ils meurent tous.
Ouais. Voilà. C'est ça.
Non, je sais pas. J'ai
du mal à comprendre moi le principe de faire des saisons puis de faire des parties dans les saisons.
C'est simplement pour purement financier.
Ouais, mais bon voilà.
Et c'est pour ça que j'ai dit.
C'est comme Lupin.
Mais oui, Lupin, c'était exactement le même principe.
Ouais, parce que j'ai l'impression que Netflix fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire on lance un galop d'essai, on voit ce que ça donne. Ça fonctionne, on fait la deuxième. Ça fonctionne pas, on passe à autre chose.
Il y a une autre série qui est exactement sur le même principe, hein, Walking Dead. Hein.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Ouais, et c'est dommage. Hein, c'est dommage. Du coup, ça a dénaturé totalement la BD. Quoi.
Un petit morceau de musique.
Oui.
Yes.
Pablo, tu nous as choisi Wax Taylor, mais pourquoi donc?
Parce que j'aime beaucoup cet artiste français électro et qui mêle électro hip-hop. Voilà, je vous laisse écouter. Distrain.
Merci Pablo, merci à tous.
Merci.
On se retrouve tout de suite après. Vous êtes bien sur Radio G.
101.5, la radio qui fait.
Situation as the picture's playing, no dedication or conviction in what I'm saying, weight laying heavy on my soul. Invisible, manage to keep it moving, but don't know who's in control. Life used to be so beautiful, could appreciate how the sun illuminates the smallest thing and motivates the birds to sing at the crack of dawn.
At the crack of
spread
dawn.
Their wings and take on a new flight before the night falls, calls them back to sleep. So they retreat under the sheet of indigo that glows from the harvest moon. I paint a picture with this tune and connect with everyone in the room who wears a smile over their gloom, trying to sweep into the corner with their broom, and yet the melancholy looms, secretly anticipating its finale soon. Before I give up,
tell me who is running this game. Check the rules, so I know who's riding this.
All the things I thought would fill the empty, but now would run this course so deep inside of me. I silently scream in agony while my friends and family watch on happily. They can't see the clouds above me, overcast, black and sunny. I laugh it off like it's funny. Who wants to be the lone wolf feeling crummy? Forget the front, 'cause actually you and me may not feel so differently.
Tell me who is running this game.
C'était Bande Geek Mafia.
Votre émission Info Culture.
Un mercredi sur deux de 19h à 20h.
Sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
On se retrouve dans 15 jours.
Là, vous écoutiez Wax Taylor, là, Destrain.
Oui. Ah oui, non, mais
dans 15 jours, les gars.
Ouais.
Avec grand plaisir. Et là, vous écoutez le nouveau générique.
Salut à tous.
Salut.
say my name. Heisenberg. You're goddamn right.